welcome you to this relief.
Nous vous souhaitons la bienvenue à la réunion générale de la Société de secours de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je suis Julie Bebeck, présidente générale de la Société de secours. Notre président Thomas Munson préside cette réunion. Il est accompagné de ses conseillers Henry B. Eyring et Dieter F. Uthoff. Ce soir, mes conseillères Sylvia Allred et Barbara Thompson sont à mes côtés. Nous saluons aussi la présence de Robert D. Hers et de Neil L. Anderson du Collège des 12 et de Greg C. Christensen des 70 qui sont nos consultants. Sur l'estrade, nous avons également les présidences générales des jeunes filles et de la primaire, ainsi que des membres du bureau général de la Société de secours. Cette réunion est diffusée en 82 langues à des femmes vivant dans 175 pays, nations et territoires. En tant que présidence de la Société de secours, nous avons rencontré personnellement au cours de l'année écoulée des sœurs d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Afrique et au Mexique. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur des sœurs de la Société de secours de Kearns, de l'interrégion d'Utah, sous la direction de Cathy Jolly et accompagnée à l'orgue par Linda Margetts. Le chœur et l'assemblée chanteront ensemble notre cantique d'ouverture « Compte les bienfaits ». Sharon L. Eubank, membre du bureau général de la Société de secours, fera la prière d'ouverture.
Thank you.
Our Father in heaven.
Notre Père céleste. Nous te remercions au début de cette conférence de pouvoir nous réunir partout dans le monde. Nous te remercions de pouvoir écouter notre présidence de la société de secours et le président Monson. Nous te remercions pour le rétablissement et pour son pouvoir dans notre vie. Nous te remercions pour le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous te demandons de nous bénir et de bénir ceux qui vont parler et ceux qui vont écouter pour que nous puissions ouvrir notre cœur et nous lier les unes les autres en tant que sœurs et tes enfants. Nous te remercions pour le pouvoir de l'Évangile de Jésus-Christ et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Sister Eubank.
Merci, Sœur Eubank. Nous vous remercions toutes pour ce beau cantique d'ouverture. Nous signalons le décès de Sœur Barbara Smith, qui a été présidente générale de la Société de secours de 1979 à 1989. Elle nous manque. C'était une amie. L'une de ses dernières paroles était des paroles d'honneur et de respect envers les femmes de l'Église. Le président Monson m'a demandé d'être la première oratrice ce soir. Après mon discours, le chœur chantera en avant. Sylvia Allred nous adressera la parole ensuite. Elle sera suivie de Barbara Thompson. Après le discours de Sir Thompson, le chœur et l'assemblée chanteront à « Donne-moi Père ». Cette réunion est un don à toutes les filles de notre Père Céleste qui désirent apprendre sa volonté et comprendre leurs responsabilités dans son plan. J'ai rencontré beaucoup d'entre vous au cours de l'année passée et mon cœur a été touché quand je vous ai regardé dans les yeux, que je vous ai serré dans mes bras, j'ai ri avec vous, j'ai pleuré avec vous et je vous ai écouté exprimer votre joie, votre chagrin et vos succès. Chacune de vous est précieuse au-delà de toute description aux yeux de notre Père Céleste. Il connaît chacune de vous. En tant que fille de Dieu, vous vous préparez à recevoir des rôles éternels et chacune de vous a une identité, une nature et une responsabilité réservée aux femmes. Le succès des familles, des collectivités et de cette Église et du précieux emploi du salut dépendent de votre fidélité. Oh, mes chères sœurs, comme nous vous aimons et prions pour vous. Nous vivons toutes une expérience terrestre très personnelle. Deux sœurs rencontrées récemment illustrent la façon dont on peut vivre fidèlement dans des situations différentes. L'une d'elles vit dans une jolie maison au centre du Brésil. Sa maison de briques rouges, située dans un jardin de terre rouge, entourée d'un mur de blocs rouges, est un havre de paix et un refuge à l'abri du monde. Ses enfants, aux yeux brillants, savent chanter les chants de la primaire. Et sur les murs de sa maison se trouvent des images du Sauveur, des temples et des prophètes de Dieu, découpés dans le Liaona. Son mari et elle ont fait des sacrifices pour être scellés dans le temple, afin que leurs enfants puissent naître dans l'Alliance. Elle m'a dit qu'elle prie continuellement pour que le Seigneur lui donne la force et l'inspiration nécessaires pour élever ses enfants dans la lumière, la vérité et la force de l'Évangile. Une autre sœur vit seule dans un minuscule appartement au 80e étage d'un bâtiment à Hong Kong. Elle a des problèmes physiques, mais elle est joyeuse et indépendante. Elle est la seule membre de l'église de sa famille. Sur une petite étagère se trouvent ses écritures, ses manuels de la Société de secours et d'autres livres de l'Église. Elle a créé un havre rempli de l'Esprit et elle est une lumière pour tout le monde dans sa branche. Nous savons que beaucoup de sœurs vivent sous l'oppression ou dans des situations dangereuses. Certaines ont constamment faim. Certaines doivent quotidiennement trouver le courage de continuer avec foi en dépit des déceptions, de la trahison. Parce que nous vivons dans les derniers jours de cette terre, nous voyons partout des signes d'une grande lutte. Les mythes et les incompréhensions concernant la force, l'objectif et la position des femmes de l'Église sont nombreux. Les mythes les plus répandus disent que nous avons moins d'importance que les hommes, que nous sommes généralement gentils mais mal informés, et que quoi que nous fassions, nous ne serons jamais assez pour que notre Père Céleste nous accepte. Comme l'apôtre Pierre l'a dit, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, reniant le maître qui les a rachetés. Le livre de Mormon décrit ce qui est en train de se passer. Car voici, en ce jour-là, Satan fera rage dans le cœur des enfants des hommes et les incitera à la colère contre ce qui est bon. Et il en pacifiera d'autres et les endormira dans une sécurité charnelle, de sorte qu'ils diront « Tout est bien en Sion, oui, Sion pour père, tout est bien ». Et c'est ainsi que le diable trompe leur âme et les entraîne soigneusement sur la pente de l'enfer. Et voici, il en entraîne d'autres par la flatterie et leur dit qu'il n'y a pas d'enfer. Et il leur dit « Je ne suis pas un démon, car il n'y en a pas ». Et c'est ainsi qu'il leur chuchote aux oreilles jusqu'à ce qu'ils les saisissent de ces chaînes affreuses d'où il n'y a pas de délivrance. Fin de citation. Dans le climat grandissant d'insistance sur les droits d'excuses, d'apathie, de tentation, les filles de Dieu qui ne sont pas sur leur garde, qui ne prient pas et ne sont pas inspirées, courent de plus en plus le risque de devenir ce que les Écritures appellent des femmes d'un esprit faible et borné qui adorent des dieux étrangers. Chose triste à dire, beaucoup de sœurs croient plus au mythe qu'à la vérité, en conséquence des difficultés de la vie et des hérésies populaires du monde. Cela ressort de la constatation que beaucoup de sœurs ne font pas les choses essentielles, que sont la prière et la lecture des Écritures. Le Seigneur lui-même a dit que c'est un jour d'avertissement et non un jour pour faire de longs discours. Afin de veiller sur ses filles, de les instruire et de les inspirer en ces temps difficiles, Dieu a autorisé Joseph Smith, le prophète, à organiser les femmes de l'Église. Cette organisation divinement conçue et dirigée par la prêtrise s'appelle la Société de secours. L'objectif de la Société de secours est de préparer les filles de Dieu à recevoir les bénédictions de la vie éternelle, en faisant grandir leur foi et leur justice personnelle, en fortifiant la famille et le foyer, et en recherchant et aidant les gens dans le besoin. La Société de secours éclaircit notre œuvre et nous rend unis, nous, les filles de Dieu, dans la défense de son plan. À notre époque d'erreurs, d'identité, de confusion et d'égarement, la Société de secours est une boussole et un guide pour aider la vérité aux femmes fidèles. Aujourd'hui, les femmes qui pratiquent la justice recherchent un déversement de révélations personnelles pour résister aux égarements, pour combattre le mal et la destruction spirituelle et pour surmonter les désastres personnels en augmentant leur foi, fortifiant leur famille et leur foyer et en soulageant les autres. Notre présidence a prié, jeûné, médité et tenu conseil avec les prophètes voyants et révélateurs pour apprendre ce que Dieu veut que nous fassions pour aider ses filles à être fortes, pour affronter la calamité qui s'abattra sur les habitants de la terre. La réponse a été que les sœurs de l'Église doivent connaître l'histoire de la Société de secours et en tirer les leçons. Comprendre l'histoire de la Société de secours fortifie l'identité de base et la valeur des femmes fidèles. C'est la raison pour laquelle une histoire de la Société de secours pour l'Église est en cours de rédaction et sera disponible l'année prochaine. En prévision de cela, l'histoire de la Société de secours reçoit une attention accrue, par exemple à la page des visites d'enseignement du Liaona et de l'Ensign. L'élaboration de l'histoire a été une expérience inspirée et marquée par la révélation. En étudiant l'histoire de la Société de secours, nous avons appris que la vision et l'objectif du Seigneur pour la Société de secours n'étaient pas celles d'une réunion dominicale somnolente. Il avait à l'esprit quelque chose de bien plus grand qu'un club féminin ou un groupe de divertissement pour des femmes ayant des intérêts particuliers. Il voulait que la Société de secours contribue à édifier son peuple et à le préparer à recevoir les bénédictions du Temple. Il a créé cette organisation pour aligner ses filles sur son œuvre et pour les amener à apporter leur aide à l'édification de son royaume et à fortifier les foyers de Sion. Partout dans le monde, les femmes L'étude de l'histoire de la société de secours définit et exprime qui nous sommes, nous, disciples de Jésus-Christ. Notre fidélité et notre service sont des signes de notre conversion et de notre engagement à nous souvenir de lui. Notre fidélité et notre service sont des signes de notre conversion et de notre engagement à nous souvenir de lui et à le suivre. En juillet 1830, au début du rétablissement de son Église, le Seigneur a choisi sa première dirigeante et lui a dit dans une révélation : Je te parle, Emma Smith, ma fille, car en vérité, je te le dis, tous ceux qui reçoivent mon Évangile sont des fils et des filles dans mon royaume. L'histoire de la Société de secours nous enseigne que notre Père Céleste connaît ses filles. Il les aime. Il leur a donné des responsabilités précises. Il leur a parlé et les a guidées pendant leur mission terrestre. De plus, l'histoire de la Société de secours élève et valide la position des femmes et montre comment elles œuvrent en partenariat avec les dirigeants fidèles de la prêtrise. Notre histoire nous enseigne ce que nous devons faire pour nous préparer à recevoir les bénédictions de la vie éternelle. L'organisation de la Société de secours a toujours eu la responsabilité d'organiser l'énergie des sœurs dans les paroisses et les branches de Sion. Les réunions de la Société de secours, le ministère des sœurs visiteuses et leurs services instruisent les filles de Dieu, veillent sur elles et les inspirent dans leurs responsabilités dans l'œuvre et le royaume de Dieu. Lors de cette même réunion, il y a un an, nous avons annoncé des règles concernant les réunions de la Société de secours. Nous sommes heureuses de dire que dans la plupart des paroisses et des branches partout dans le monde, les présidences de la Société de secours et les sœurs ont adopté ces règles, ainsi que l'esprit qui les sous-tendait. Cela a été une joie de voir le rajeunissement de l'objectif et de l'œuvre historique de la Société de secours. Nous avons aussi constaté une augmentation de la dignité, de l'identité et de la pertinence de la Société de secours. Maintenant que toutes les réunions des sœurs sont nommées simplement et annoncées pour ce qu'elles sont, des réunions de la Société de secours. Nous voyons un accroissement de la foi et de la justice personnelle, un renforcement des familles et des foyers, et plus de secours offerts par les sœurs par l'intermédiaire des réunions de la Société de secours. Toutes les règles concernant les réunions de la Société de secours, les visites d'enseignement et les autres actions de cette organisation ont leur fondement dans l'histoire de la Société de secours et sont approuvées par la première présidence. La Société de secours a toujours eu la responsabilité de participer à l'œuvre du salut. Depuis le début de l'Église rétablie, les sœurs ont toujours été les premières, les dernières, toujours à répondre aux événements de la vie quotidienne. De la Société de secours, les sœurs vont de l'avant, œuvrer à la primaire, aux jeunes filles, à l'école du dimanche et ailleurs. Et elles sont des exemples de vertu pour la génération montante. Le service personnel édifie chaque sœur. Et le service uni de millions de femmes fidèles crée une forme impressionnante de foi en l'œuvre du Seigneur. L'histoire montre que depuis le début du rétablissement, les sœurs ont été en première ligne pour proclamer l'Évangile. Et elles continuent cet effort en partant en mission, en préparant des jeunes gens et des jeunes filles à aller en mission, et en invitant leurs amis, leurs voisins et les membres de leur famille à prendre part aux bénédictions de l'Évangile. L'histoire nous apprend aussi que Joseph Smith, le prophète, utilisait les réunions de la Société de secours pour instruire les sœurs de leurs responsabilités et les préparer à aller au temple. Aujourd'hui, l'histoire familiale, l'œuvre du temple, continue à faire partie des obligations de la Société de secours. La compréhension de notre objectif historique aide les femmes à apprendre à se fixer correctement des priorités, afin de ne pas dépenser d'argent pour ce qui n'a pas de valeur, ni leur labeur pour ce qui ne peut pas satisfaire. Fin de citation. La Société de secours a toujours eu la responsabilité de faire ce que l'apôtre Paul a préconisé, enseigner aux jeunes filles à être modérées, discrètes, chastes, et aux femmes mariées à aimer leurs maris et leurs enfants et à fortifier leur famille, leur foyer. L'histoire de la société de secours nous enseigne à prendre soin des choses essentielles qui nous sauveront et nous sanctifieront, et des choses qui sont nécessaires pour nous permettre d'être autonomes et utiles dans le royaume du Seigneur. Un thème constant tout au long de notre histoire est que les sœurs qui utilisent le pouvoir du Saint-Esprit agissent avec l'inspiration du Seigneur dans leur vie et reçoivent la révélation pour s'acquitter de leurs responsabilités. L'histoire de notre société de secours est une histoire inspirante, pleine de femmes fortes, fidèles et déterminées. Partie intégrante de l'Église rétablie du Seigneur, la société de secours se trouve maintenant dans plus de 170 pays. Chaque femme adulte de l'Église du Seigneur peut recevoir des responsabilités importantes. Les fillettes et les jeunes filles de l'Église apprennent à se fixer des buts grâce au programme de la foi en Dieu et du progrès personnel qui concentre leur attention sur le temple et leurs responsabilités futures. À la société de secours, elles continuent à progresser pour recevoir les bénédictions du temple et de la vie éternelle en accroissant leur foi et leur justice personnelle, en fortifiant la famille et le foyer et en cherchant à aider les gens dans le besoin. Les sœurs fidèles apprennent à faire cela en recevant très peu de louanges ou de reconnaissance pour ce qu'elles font. La société de secours prospère en suivant l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ qui a dit que si nous donnons notre aumône ou nos offrandes en secret, notre Père Céleste qui voit dans le secret nous récompensera ouvertement. L'histoire et l'œuvre de la société de secours nous associent à une grande communauté de filles de Dieu, jeunes et moins jeunes, riches et pauvres, instruites et illettrées, célibataires et mariées, forte et inébranlable partout dans le monde. En fin de compte, la valeur de l'histoire ne réside pas tant dans ses dates, ses époques et ses lieux. Sa valeur réside dans le fait qu'elle nous enseigne les principes, les buts et les modèles que nous devons suivre, qu'elle nous aide à savoir si nous sommes, qui nous sommes, ce que nous devons faire, et qu'elle nous unit pour fortifier les foyers de Sion et édifier le royaume de Dieu sur la terre. Quand elle agit de façon inspirée, la société de secours peut remplacer la peur, le doute et l'égoïsme par la foi, l'espérance et la charité. Tandis que nous ferons avancer l'œuvre du Seigneur, l'histoire de la société de secours continuera à être écrite par des sœurs fidèles partout dans le monde. Le Seigneur fortifie la société de secours maintenant et prépare un avenir glorieux pour ses filles. Je vous témoigne de l'existence de notre Père Céleste et de son Fils, Jésus-Christ. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, l'Évangile, la bonne nouvelle de notre identité et de notre objectif a été rétablie sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
thankful to be part of this gathering of faithful women across.
Je suis reconnaissante de participer à cette réunion de femmes fidèles du monde entier. J'ai rencontré des milliers d'entre vous dans de nombreux pays. Votre fidélité et votre dévouement m'ont fortifiée. Votre exemple de bonté et d'engagement envers l'Évangile m'ont inspirée. Vos actes discrets de service désintéressés, vos témoignages et votre conviction m'ont profondément touchée. Ce soir, je vais poser à chacune de vous les mêmes questions que j'ai posées à beaucoup d'entre vous dans nos conversations. Qu'est-ce qui vous aide à être constante et immuable quand vous affrontez les difficultés qui épouvrent votre foi? Qu'est-ce qui vous aide à traverser les épreuves et l'adversité? Qu'est-ce qui vous aide à persévérer et à devenir une vraie disciple du Christ? Voici quelques-unes de vos réponses. Votre certitude que notre Père Céleste vous aime et se soucie de vous. Votre espérance que grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, toutes les bénédictions promises aux fidèles leur seront accordées. Votre connaissance du plan de rédemption. Aujourd'hui, je vais développer ces déclarations issues de votre cœur. Dans Romains, il est dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » La première fois où je me rappelle avoir senti avec certitude que mon Père Céleste me connaissait, m'aimait et se souciait de moi, a été quand je suis entrée dans les eaux du baptême à l'âge de 15 ans. Avant cela, je savais que Dieu existait et que Jésus-Christ était le Sauveur du monde. Je croyais en eux et je les aimais. Mais je n'avais jamais ressenti leur amour et leur sollicitude envers moi personnellement, jusqu'à ce jour où je me suis réjouie de l'occasion de contracter les alliances du baptême. J'ai pris conscience du grand miracle que cela avait été d'avoir été trouvée et instruite par les missionnaires, particulièrement avec une poignée de missionnaires seulement parmi 2 millions de personnes. Alors, j'ai su que mon Père Céleste me connaissait et m'aimait d'une façon tellement personnelle qu'il avait conduit les missionnaires chez moi. Je sais maintenant que Dieu est un Dieu d'amour. C'est vrai parce que nous sommes ses enfants et qu'il désire que nous ayons tous de la joie et le bonheur éternel. Son œuvre et sa gloire consistent en ce que nous ayons l'immortalité et la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il nous a donné un plan éternel de salut. Notre but dans la vie est d'acquérir la vie éternelle et l'exaltation pour nous et d'aider les autres à faire de même. Il a créé cette terre pour que nous obtenions un corps physique et que notre foi soit mise à l'épreuve. Il nous a fait le don précieux du libre arbitre grâce auquel nous pouvons choisir le chemin qui mène au bonheur éternel. Le plan de rédemption de notre Père Céleste est pour vous et moi. Il est pour tous ses enfants. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Et il leur donna des commandements selon lesquels ils devaient adorer le Seigneur, leur Dieu. Et Adam obéit aux commandements du Seigneur. Adam et Ève eurent des enfants et le plan a continué à s'accomplir. Je sais que chacune de nous joue un rôle vital et essentiel en tant que fille de Dieu. À nous, ses filles, il a accordé des attributs divins dans le but de promouvoir son œuvre. Dieu a confié aux femmes l'œuvre sacrée de porter et d'élever des enfants. Rien n'est plus important. C'est un appel sacré. La fonction la plus noble pour une femme est la tâche sacrée d'édifier une famille éternelle, idéalement en partenariat avec son mari. Je suis consciente que certaines de nos sœurs n'ont pas encore reçu la bénédiction d'être mariées ou d'avoir des enfants. Je vous assure qu'au moment voulu, vous recevrez toutes les bénédictions promises aux fidèles. Vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et persévérer jusqu'à la fin pour avoir la vie éternelle. Dans la perspective éternelle, les bénédictions manquantes ne sont que pour un peu de temps. De plus, vous n'avez pas à être marié pour respecter les commandements, ni édifier votre famille, vos amis et vos voisins. Vos dons, vos talents, vos aptitudes, vos capacités et vos points forts spirituels sont bien nécessaires dans l'unification du royaume. Le Seigneur compte sur votre volonté d'accomplir ces devoirs essentiels. Le Seigneur dit, « Je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Le Seigneur vous aime, il connaît vos espoirs et vos déceptions. Il ne vous oubliera pas, parce que vos douleurs et vos souffrances sont continuellement présentes à son esprit. La plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous a été qu'il a été disposé à envoyer son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, expier nos péchés, être nos sauveurs et notre Rédempteur. Dans Jean, nous lisons, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Sauveur dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Le fait que Jésus-Christ était disposé à être l'agneau du sacrifice est la preuve de son amour pour le Père et de son amour infini pour chacun de nous. Ésaïe décrit la souffrance du Sauveur. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur lui-même a déclaré, « Moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. » Il a rompu les liens de la mort et a permis que tous les hommes ressuscitent. Il nous a fait don de l'immortalité. Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés. Il a souffert et est mort pour satisfaire aux exigences de la justice, afin que nous ne souffrions pas si nous nous repentons. Nous montrons que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur quand nous plaçons notre foi en lui, que nous nous repentons de nos péchés et recevons les ordonnances du salut requises pour entrer à la présence de Dieu. Ces ordonnances du salut symbolisent les alliances que nous faisons. Les alliances d'obéissance à ses lois et à ses commandements nous lient à Dieu et fortifient notre foi. Notre foi et notre constance en Christ nous donneront le courage et la confiance dont nous avons besoin pour affronter les difficultés de la vie qui font partie de notre expérience terrestre. En 1992, peu après que mon mari a été appelé à présider la mission d'Assomption au Paraguay, nous sommes allés à une conférence de branche dans la région isolée du Chaco au Paraguay. Nous avons roulé pendant 4 heures sur une route pavée, puis 7 autres heures sur une mauvaise route. Nous avons bien vite oublié les dangers et l'inconfort de ce long voyage quand nous avons salué les membres de Mistolar qui nous ont accueillis tout heureux. Julio Yegros était le jeune président de branche et sa femme Margarita et lui étaient l'une des quelques familles qui avaient été scellées dans le temple. Je leur ai demandé de me parler de leur voyage au temple. À cette époque, le temple le plus proche était celui de Buenos Aires en Argentine. Le voyage depuis Mistolar durait 27 heures aller pour arriver au temple et ils étaient allés avec leurs 2 jeunes enfants. Cela se passait pendant un hiver très rigoureux, mais au prix de grands sacrifices, ils réussirent à aller au temple et à être scellés en une famille éternelle. Sur le chemin du retour, les 2 bébés tombèrent très malades et moururent. Ils les enterrèrent en chemin et retournèrent chez eux sans leurs enfants. Ils étaient tristes et solitaires, mais étrangement, ils se sentaient réconfortés et en paix. Ils racontèrent ensuite, « Nos enfants ont été scellés à nous dans la maison du Seigneur. Nous savons que nous les aurons à nouveau avec nous pour toute l'éternité. Cette connaissance nous a donné la paix et le réconfort. Nous devons rester dignes et fidèles aux alliances que nous avons faites dans le temple et nous serons réunis tous ensemble. » Comment accroissons-nous notre foi et notre espoir pour être comme ces membres fidèles du Paraguay? Comment fortifions-nous notre foi dans les affirmations que nous avons entendues de nombreuses fois de tant d'entre vous, que vous croyez en l'amour de Dieu à votre égard, que vous êtes certaines que vous recevrez ses bénédictions et que vous comprenez le plan de rédemption par le Sauveur Jésus-Christ et votre rôle important dans son plan? Je suggère 4 choses qui m'ont aidée. La prière, l'étude des Écritures, l'obéissance et le service. La prière est le fait de communiquer avec notre Père Céleste. Lorsque nous prions, nous affirmons notre foi en lui et en son pouvoir de nous bénir. Dans Alma, nous lisons « Consulte le Seigneur dans toutes tes actions et il te dirigera dans le bien. Oui, lorsque tu te couches le soir, couche-toi dans le Seigneur, afin qu'il veille sur toi dans ton sommeil. » Et lorsque tu te lèves le matin, que ton cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu. Et si tu fais ces choses, tu seras élevé au dernier jour. L'étude des Écritures. La connaissance et la compréhension du plan de notre Père Céleste nous aident à savoir qui nous sommes et ce que nous devons devenir. Le Seigneur a dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Chaque femme a grand besoin d'étudier les Écritures. Lorsque nous connaissons mieux la vérité des Écritures, nous pouvons les appliquer dans notre vie et avoir plus de pouvoir pour accomplir les desseins de Dieu. La prière personnelle et l'étude des Écritures quotidiennes ouvrent aussi notre vie à l'influence et au pouvoir du Saint-Esprit. L'obéissance. Le Seigneur a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Notre obéissance fidèle nous aide à acquérir les attributs de la divinité et à changer notre cœur. Dans les doctrines et alliances, on nous conseille, « Attache-toi aux alliances que tu as faites. Garde continuellement mes commandements et tu recevras une couronne de justice. » Notre engagement à suivre l'Évangile nourrit notre foi et notre espérance en Jésus-Christ. Le service. Nous avons de nombreuses occasions de le servir. On demande à chaque sœur de rechercher et d'aider les pauvres et les nécessiteux autour d'elle. Les pauvres et les nécessiteux, ce sont aussi les gens qui ont des besoins spirituels et émotionnels. Chacune a aussi été chargée de sauver ses morts, ce que nous faisons en travaillant à notre histoire personnelle ou en faisant l'œuvre du Temple. Nous avons reçu le commandement de parler de l'Évangile aux autres et il y a de nombreuses façons de participer à l'œuvre missionnaire. Toutes ces choses représentent des façons de servir le Seigneur. Le Seigneur attend de ceux qui sont forts qu'il fortifie les faibles et votre propre foi sera fortifiée tandis que vous fortifierez ses enfants et veillerez sur eux. Je sais que notre Père Céleste aime parfaitement, individuellement et constamment chacun de ses enfants. Je sais qu'en tant que femme, nous avons un rôle essentiel à jouer dans le plan du bonheur. Tout ce qu'il attend de nous, c'est le meilleur de nous-mêmes. Et chacune de nous est nécessaire à l'édification du royaume. L'expiation est réelle. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Je témoigne que si nous sommes fidèles et persévérons jusqu'à la fin, nous recevrons toutes les bénédictions de notre Père Céleste, même la vie éternelle et l'exaltation. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Mes chères sœurs, quelle bénédiction cela représente pour moi d'être avec vous, de ressentir votre force et votre amour pour le Seigneur. Merci pour l'amour et pour la compassion dont vous faites preuve quotidiennement envers les autres. Nous savons que dans les premiers temps de la société de secours à Nouveau, les sœurs allaient de maison en maison, qu'elles se servaient les unes les autres, évaluaient les besoins, apportaient de la nourriture, s'occupaient des malades et faisaient preuve de compassion pour chaque femme et sa famille. Cela fait penser au passage de Jude qui dit « Ayez compassion des uns, faisant la différence ». Quand je médite sur ce passage et sa signification, mes pensées se tournent vers le Sauveur et vers les nombreuses fois où les Écritures nous parlent de l'amour et de la compassion qu'il avait pour tout le monde. Dans le Nouveau Testament, nous lisons souvent que le Christ était ému de compassion pour les gens tandis qu'il répondait à leurs besoins. Il avait de la compassion quand ils voyageaient qu'ils avaient faim, quand ils voyaient qu'ils avaient faim et il les nourrissait, ou quand ils étaient malades et il les guérissait, ou quand ils avaient besoin d'enrichissement spirituel et il les instruisait. Avoir de la compassion, c'est ressentir de l'amour et de la miséricorde envers une autre personne. Cela signifie avoir de l'empathie et désirer soulager la souffrance des autres. Cela signifie être gentil et montrer de la tendresse envers les autres. Le Sauveur nous a demandé de faire ce qu'il a fait, de porter les fardeaux des uns des autres, de consoler ceux qui ont besoin de consolation, de pleurer ceux qui pleurent, de nourrir les affamés, de visiter les malades, d'aller au secours des faibles, de fortifier les mains languissantes et de nous enseigner les uns aux autres la doctrine du royaume. Pour moi, ces mots et ces actions décrivent les instructrices visiteuses, celles qui servent les autres. Les visites d'enseignement donnent aux femmes l'occasion de veiller les unes sur les autres, de se fortifier et de s'instruire mutuellement. Un peu comme l'instructeur dans la prêtrise d'Aaron à qui est donnée la responsabilité de veiller sur les membres de l'Église et d'être avec eux et de les fortifier. L'instructrice visiteuse montre son amour en réfléchissant dans la prière à chaque femme qu'elle est appelée à servir. Sœur Beck nous a rappelé, parce que nous suivons l'exemple et les enseignements de Jésus-Christ, nous accordons de la valeur à cette tâche sacrée d'aimer, connaître, servir, comprendre, enseigner et secourir en son nom. Aujourd'hui, je veux parler de deux choses. Les bénédictions que vous apportez aux autres dans votre service d'instructrice visiteuse et les bénédictions que vous recevez en servant les autres. Il n'y a pas longtemps, j'ai rendu visite à un groupe de femmes à Anchorage, en Alaska. Il y avait une douzaine de femmes dans la salle et 6 de plus se sont jointes par nous, à nous par téléphone main libre dans des villes et des villages, partout en Alaska. Beaucoup de ces femmes habitaient à des centaines de kilomètres de l'église. Ces femmes m'ont donné une leçon sur les visites d'enseignement. Pour rendre personnellement visite à toutes les sœurs, il aurait fallu prendre l'avion, voyager en bateau ou parcourir de très grandes distances en voiture. Il était évident que pour des raisons de temps et d'argent, les visites à domicile étaient impossibles. Or, ces sœurs se sentaient étroitement liées parce qu'elles priaient avec ferveur les unes pour les autres et qu'elles cherchaient à être guidées par le Saint-Esprit pour savoir ce dont leurs sœurs avaient besoin, alors même qu'elles n'étaient pas très souvent là en personne. Elles réussissaient à rester en contact par téléphone, par Internet et par courrier. Elles servaient avec amour parce qu'elles avaient fait des alliances avec le Seigneur et qu'elles désiraient fortifier leurs sœurs. Une autre équipe de sœurs dévouées de la République démocratique du Congo parcourait de grandes distances à pied pour aller voir une femme et son bébé. Ces sœurs préparaient dans la prière un message et voulaient savoir comment elles pouvaient apporter quelque chose à la femme chez qui elle allait. La femme était ravie de leur visite. Cela représentait pour elle un message du ciel qui lui était tout spécialement destiné. Quand les instructrices visiteuses se réunissaient avec elle dans son humble maison, la sœur, sa famille et les instructrices elles-mêmes étaient toutes édifiées et bénies. Le long trajet à pied ne semblait pas être un sacrifice. Ces instructrices visiteuses avaient de la compassion, apportaient quelque chose de bénéfique et étaient une bénédiction pour cette femme. Dans certaines régions de l'Église, les longues distances, les coûts et les questions de sécurité rendent impossibles les contacts mensuels en personne. Mais grâce au pouvoir de la révélation personnelle, les sœurs qui cherchent vraiment à s'aimer et qui se fortifient et veillent les unes sur les autres trouvent des façons ingénieuses de remplir cet appel du Seigneur. Des présidents de la société de secours inspirée se réunissent en conseil avec leur évêque et font les attributions des visites d'enseignement dans la prière pour l'aider à veiller sur chaque sœur de la paroisse. Lorsque nous comprenons ce processus du conseil de la révélation, nous comprenons mieux la responsabilité importante qui est la nôtre de servir et nous pouvons nous reposer sur l'esprit avec plus de confiance pour qu'il guide nos efforts. J'ai, quant à moi, rendu visite chaque mois à plusieurs femmes et ensuite déclaré fièrement avec un soupir de soulagement, j'ai fait mes visites d'enseignement. Eh bien, la partie dont je fais rapport est peut-être faite, mais si c'est la seule raison de la faire, quel dommage. Ce qui fait la beauté des visites d'enseignement, ce n'est pas de voir 100% des visites sur le rapport mensuel, mais de voir des vies qui changent, des larmes essuyées, des témoignages qui grandissent, des personnes aimées, des familles fortifiées, des personnes consolées, des affamés nourris, des malades visités et des affligés réconfortés. En réalité, on n'en a jamais fini avec les visites d'enseignement parce que nous veillons et que nous fortifions toujours. Une autre bénédiction des visites d'enseignement est de voir l'unité et l'amour augmenter. Les Écritures nous montrent comment y parvenir. Et il leur commanda de regarder d'un même œil vers l'avenir, ayant une seule foi et un seul baptême, et leur cœur enlacé dans l'unité et l'amour les uns envers les autres. De nombreuses femmes ont dit que la raison pour laquelle elles étaient devenues pratiquantes dans l'Église était qu'une instructrice visiteuse dévouée était venue mois après mois, les avait servies, secourues, aimées et bénies. Le message est parfois ce que l'on donne de plus important lors d'une visite donnée. Certaines femmes n'ont que peu d'enrichissement spirituel dans leur vie en dehors du message que vous leur apportez. Les messages qui sont dans le Liaona et dans l'Ensign sont des messages de l'Évangile qui aident chaque femme à augmenter sa foi, à fortifier sa famille ou à mettre l'accent sur le service charitable. Certaines fois, la bénédiction la plus importante de votre visite sera simplement votre écoute. Écouter apporte du réconfort, de la compréhension et de la guérison. En d'autres occasions encore, vous devrez peut-être vous retrousser les manches et vous mettre au travail dans la maison ou contribuer à calmer un enfant qui pleure. Il m'est arrivé de dire « Oh, il faut que je finisse mes visites d'enseignement ». C'était les moments où j'oubliais que je rendais visite à des femmes et les instruisais. C'était les moments où je considérais cela comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Je peux honnêtement dire que quand j'allais faire mes visites d'enseignement, et je me sentais toujours mieux, j'étais édifiée, aimée et bénie. Habituellement, beaucoup plus que la sœur à qui je rendais visite. Mon amour augmentait, mon désir de servir augmentait, et je pouvais voir le beau moyen qu'a prévu notre Père Céleste pour que nous veillions les unes sur les autres. Les autres bénédictions que nous avons d'être instructrices visiteuses sont que nous finissons par connaître et par devenir les amis de personnes que nous n'aurions peut-être pas bien connues autrement. Par moments, cela nous permet d'être la réponse aux prières de quelqu'un. Notre part, la révélation personnelle et les expériences spirituelles ont un lien étroit avec les visites d'enseignement. C'est en étant chez des femmes de ma paroisse et de par le monde que j'ai eu certaines des expériences les plus profondes, les plus joyeuses et les plus spirituelles de ma vie. Nous nous sommes mutuellement enseigné l'Évangile, nous avons pleuré ensemble, ri ensemble et résolu des problèmes ensemble, et j'ai été édifiée et bénie. Un soir, vers la fin du mois, je me préparais à partir en voyage et je n'avais pas encore rendu visite à l'une de mes sœurs. C'était tard dans la soirée. Je n'avais pas de rendez-vous. Je n'ai pas téléphoné. Je n'avais pas de compagne de visite. Mais j'ai décidé qu'il était important de rendre visite à mon amie, Julie. Ashley, la fille de Julie, était née avec la maladie des os de verre. Elle avait presque 6 ans, mais elle était très petite et ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que bouger les bras et parler. Elle était couchée sur une peau de mouton toute la journée et tous les jours. C'était une enfant joyeuse et heureuse, et j'aimais être près d'elle. Ce soir-là, lorsque je suis arrivée à la maison, Julie m'a invitée à entrer, et Ashley m'a dit qu'elle voulait me montrer quelque chose. Je suis entrée et je me suis agenouillée sur le sol à côté d'Ashley. Sa mère était de l'autre côté. Ashley a dit « Regarde ce que je peux faire ». Puis, avec un peu d'aide de sa mère, elle a réussi à se mettre sur le côté, puis à revenir à sa position initiale. Il lui avait fallu presque 6 ans pour atteindre cet objectif merveilleux. Tandis que nous applaudissions, disions bravo, rions et pleurions ensemble en cette occasion spéciale, j'ai remercié notre Père Céleste d'être allé faire une visite d'enseignement et de ne pas avoir manqué ce grand événement. Cette visite a eu lieu de nombreuses années. Hélas, gentille Ashley n'est plus de ce monde. Mais je serai toujours reconnaissante d'avoir eu cette expérience avec elle. Ma chère mère fut elle-même pendant de nombreuses années une instructrice visiteuse merveilleuse et dévouée. Elle pensait continuellement à des façons d'édifier les familles à qui elle rendait visite. Elle faisait particulièrement attention aux enfants des femmes chez qui elle allait, en espérant fortifier les familles. Je me souviens d'un enfant de 5 ans courant vers ma mère à l'église et lui disant « Tu es mon instructrice visiteuse, je t'aime ». C'était une bénédiction pour ma mère de faire partie de la vie de ces femmes formidables et de leur famille. Les expériences faites lors des visites d'enseignement ne sont pas toutes chaleureuses et merveilleuses. C'est quelquefois dur, par exemple, de se rendre dans une maison où l'on n'est pas du tout la bienvenue, ou lorsqu'il est difficile de rencontrer une sœur dont l'emploi du temps est très chargé. Cela peut prendre plus de temps pour construire une bonne relation avec certaines sœurs. Mais lorsque nous cherchons vraiment à aimer la sœur, à prendre soin d'elle et à prier pour elle, le Saint-Esprit nous aide à trouver le moyen de veiller sur elle et de la fortifier. Le président Monson est passé maître dans l'art de servir, comme l'a fait le Sauveur. On le trouve constamment en train de rendre visite aux autres et de les aider. Il a dit « Nous sommes entourés de gens qui ont besoin de notre attention, de nos encouragements, de notre soutien, de notre réconfort, de notre gentillesse. Nous sommes les mains du Seigneur, ici sur la terre. avec la mission de servir et d'aider ses enfants. Il dépend de chacun de nous. Et nul ne peut apporter son aide à cette œuvre s'il n'est humble et plein d'amour, et n'a la foi, l'espérance et la charité, étant modéré en toutes les choses qui seront confiées à ses soins. Les femmes chez qui nous faisons nos visites d'enseignement ont été confiées à nos soins. Faisons preuve d'amour et de compassion pour changer les choses dans la vie de celles dont on nous a confié la responsabilité. Sœurs, je vous aime. Je prie pour que vous ressentiez l'amour de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ. Je témoigne que le Sauveur vit. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Nous exprimons notre gratitude à toutes les sœurs et dirigeantes de la Société de secours qui consacrent leur vie et leur foi à cette grande œuvre. Nous remercions le chœur et les autres musiciennes pour leur participation, ainsi que toutes les personnes grâce à qui cette réunion a pu avoir lieu. Nous aurons maintenant l'honneur d'écouter Thomas Manson, notre président et prophète. À la fin du discours du président Manson, le chœur chantera le cantique de clôture, l'Esprit du Dieu Saint. Marsha J. Beck, membre du bureau général de la Société de Secours, fera ensuite la prière de clôture. Président Manson.
I was in a meeting once.
Je me suis trouvé dans une réunion une fois. Et l'orateur s'est élevé au pupitre sans voir la belle assemblée d'aujourd'hui. Il lui a demandé ensuite à l'assemblée de s'asseoir. Ça m'arrive toujours. Je suis un homme qui a des souvenirs. Je repense à ma jeunesse. Et je pense aux sœurs visiteuses qui sont venues chez nous. Et je pense aux efforts de ma mère pour tenir un récit de ce qui se passait dans la paroisse, en particulier sur le bureau de mon père. On avait 80 veuves dans notre bureau, dans notre paroisse. Et mon père n'était pas toujours à la maison le jour de Noël.
Taking a nice roasting chicken that I conned Glenn Rudd out of providing.
He was in the... Et je me souviens d'avoir visité les veuves, 84 d'entre elles. Et comment, lors de mes visites, elle me souhaitait toute la bienvenue, Tommy. Toutes me demandaient de parler à leur funérailles, et je l'ai fait. À toutes les 84. Parfois trois, lors d'un même jour. Alors, j'éprouve de la tendresse dans mes pensées ce soir. Et je me réjouis ce soir. Ce soir, notre âme s'est élevée vers les cieux. Nous avons été bénis par de la magnifique musique et des messages inspirés. L'Esprit du Seigneur est présent. Je prie pour être inspiré maintenant que je vous fais part de mes pensées et de mes sentiments. Je vais commencer par une petite anecdote qui illustre le message que je voudrais passer. Lisa et John, jeune couple marié, emménagèrent dans un nouveau quartier. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner, Lisa regarda par la fenêtre et vit sa voisine qui étendait son linge. Elle s'exclama, « Ce linge n'est pas propre. Notre voisine ne sait pas faire la lessive. » John regarda, mais resta silencieux. Chaque fois que sa voisine faisait sécher son linge, Lisa faisait les mêmes commentaires. Quelques semaines plus tard, elle fut surprise de voir, en regardant par sa fenêtre, du linge propre étendu dans le jardin de sa voisine. Elle dit à son mari, « Regarde, John, elle a finalement appris à faire la lessive. Je me demande comment elle a fait. » John lui répondit, « Eh bien, ma chérie, j'ai la réponse. » Pour ton information, je me suis levé tôt ce matin et j'ai lavé nos vitres. Ce soir, je vais exprimer quelques réflexions sur la manière dont nous nous voyons les uns les autres. Regardons-nous à travers une vitre qui a besoin d'être nettoyée? Portons-nous des jugements lorsque nous n'avons pas toutes les données? Que voyons-nous lorsque nous regardons les autres? Quel jugement portons-nous sur eux? Le Sauveur a dit, « Ne jugez point. » Il a poursuivi, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou pour paraphraser, pourquoi vois-tu ce que tu crois être du linge sale chez ta voisine, mais n'aperçois-tu pas la vitre sale dans ta propre maison? Aucun de nous n'est parfait. Je ne connais personne qui le prétendrait. Et pourtant, pour une raison que j'ignore, malgré nos propres imperfections, nous avons tendance à pointer du doigt celles des autres. Nous portons des jugements sur ce qu'ils font ou ne font pas. Nous n'avons vraiment aucun moyen de connaître le cœur, les intentions ou la situation de quelqu'un qui dit ou fait quelque chose que nous trouvons justifié de critiquer. D'où le commandement « Ne jugez point ». Il y a tout juste 47 ans, j'ai été appelé à la conférence générale au Collège des Douze Apôtres. Cela me semble il y a une éternité. À l'époque, je faisais partie de l'un des comités généraux de la prêtrise. Et donc, avant que mon nom soit présenté, j'étais assis avec les membres de ce comité de prêtrise, comme j'étais censé l'être. Cependant, ma femme n'avait aucune idée où aller. Il n'y avait personne avec qui elle pouvait s'asseoir. Et en fait, elle n'a trouvé aucun siège libre dans le tabernacle. Une chère amie à nous, qui faisait partie de l'un des bureaux généraux d'auxiliaires et qui était assise dans la zone prévue pour les membres des bureaux, a dit à Sœur Monson de s'asseoir à côté d'elle. Cette sœur ne savait rien de mon appel, qui allait être annoncé sous peu, mais elle avait remarqué ma femme, avait vu son embarras et lui avait gentiment proposé un siège. Ma chère femme a été soulagée, reconnaissante de cette attention. Cependant, lorsqu'elle s'est assise, elle a entendu derrière elle, dans un chuchotement assez fort, l'une des sœurs qui faisait partie du bureau exprimer aux autres personnes qui l'entouraient son mécontentement que des membres du bureau aient eu l'audace d'inviter une intruse à s'asseoir dans la zone qui leur était réservée. Sa réaction peu aimable n'avait pas d'excuse, quelle que soit la personne qui avait été invitée à s'asseoir. Toutefois, je ne peux qu'imaginer ce qu'elle sera ressentie lorsqu'elle a appris que l'intruse était la femme du nouvel apôtre. Non seulement nous n'avons pas d'animosité à son égard, et nous ne sommes enclins à juger les actions et les paroles des autres, mais beaucoup d'entre nous jugent aussi l'apparence, les vêtements, la coupe de cheveux, la taille. Cette liste pourrait continuer. Il y a bien des années, est paru dans un magazine national un récit intemporel sur le fait de juger l'apparence. C'est une histoire vraie que vous avez peut-être déjà entendue, mais qui vaut la peine d'être répétée. Une femme nommée Marie Bartels avait sa maison directement en face de l'entrée d'une clinique. Sa femme vivait au rez-de-chaussée. Elle louait les chambres à l'étage aux patients qui allaient à la clinique en consultation externe. Un soir, un vieil homme d'une apparence vraiment affreuse se présenta à la porte pour demander s'il y avait une chambre de libre pour lui pour la nuit. Il était voûté et ratatiné. Son visage était déformé par un gonflement rouge et à vif. Il expliqua qu'il avait cherché une chambre depuis le midi, mais sans succès. Il ajouta, « Je suppose que c'est à cause de mon visage. Je sais que ce n'est pas joli à voir, mais mon médecin m'a dit que ça allait peut-être s'améliorer après d'autres soins. » Il indiqua qu'il serait heureux de dormir dans le fauteuil à bascule sur la véranda. En parlant avec lui, Marie se rendit compte que ce petit monsieur âgé avait un cœur gros comme ça dans un tout petit corps. Ses chambres étaient occupées, mais elle lui dit d'attendre dans le fauteuil et qu'elle lui trouverait un endroit où dormir. À l'heure du coucher, son mari lui installa un lit de camp pour l'homme. Le matin, lorsqu'elle est allée le voir, les draps étaient soigneusement pliés et il était sur la véranda. Il refusa le petit déjeuner, mais juste avant d'aller prendre son bus, il demanda s'il pourrait revenir pour son prochain traitement. Il promit, « Je ne vous dérangerai pas, j'arrive à bien dormir dans un fauteuil. » Marie lui assura qu'il pourrait revenir. Pendant les quelques années où il alla faire ses soins et logea chez Marie, le vieil homme, qui était pêcheur de métier, apportait toujours des fruits de mer ou des légumes de son jardin. À d'autres moments, il envoyait des colis. Quand elle recevait ces cadeaux attentionnés, Marie pensait souvent à la remarque que sa voisine avait faite une fois que ce vieil homme défiguré et voûté était parti de chez elle ce premier matin. « Tu as logé cet homme affreux hier ?»« Je l'ai refusé. » »« On peut perdre des clients en acceptant des gens comme ça. » Marie savait qu'ils avaient effectivement perdu des clients une ou deux fois, mais elle pensait « Oh, si seulement ils le connaissaient, leur maladie serait peut-être plus facile à supporter. » Après le décès de cet homme, Marie rendit visite à une amie qui avait une serre. En regardant les fleurs, elle remarqua un beau chrysanthème doré, mais fut perplexe, car il poussait dans un vieux seau rouillé et cabossé. Son amie lui expliqua « Je n'avais plus assez de pot, et sachant à quel point celui-ci serait beau, je me suis dit que cela ne le dérangerait pas de commencer dans ce vieux seau. C'est juste pour un moment, jusqu'à ce que je le mette dans le jardin. » Marie sourit en imaginant une scène semblable dans les cieux. « Voici un esprit particulièrement beau », avait pu dire Dieu, quand il était passé à l'âme de ce petit monsieur âgé. « Cela ne le dérangera pas de commencer dans ce petit corps déformé. » Mais c'était il y a longtemps. Et dans le jardin de Dieu, comme cette belle âme doit être grande. L'apparence peut être si trompeuse, représenter si mal la qualité d'une personne. Le Seigneur a fait cette exhortation, « Ne jugez pas selon l'apparence. » Un jour, une personne qui faisait partie d'une organisation de femmes s'est plainte lorsqu'une femme a été choisie pour représenter l'organisation. Elle n'avait jamais vu cette femme, mais elle avait vu une photo d'elle. Elle n'aimait pas ce qu'elle avait vu, considérant qu'elle avait des kilos en trop. Elle a dit, « Parmi les milliers de femmes de cette organisation, on aurait quand même pu choisir une meilleure représentante. » Certes, la femme qui avait été choisie n'avait pas la taille mannequin. Mais les personnes qui la connaissaient et qui savaient quelles étaient ses qualités voyaient en elle beaucoup plus que ce que cette photo reflétait. La photo montrait en effet qu'elle avait un sourire amical et qu'elle avait l'air sûre d'elle. Ce que la photo ne montrait pas, cependant, c'est qu'elle était une amie fidèle et compatissante, une femme intelligente qui aimait le Seigneur et qui aimait et servait les enfants de Dieu. La photo ne montrait pas qu'elle s'était engagée dans la collectivité et qu'elle était une voisine prévenante et attentionnée. Bref, la photo ne reflétait pas ce qu'elle était vraiment. Je pose la question. Si l'attitude, les actes et les dispositions spirituelles se reflétaient dans les caractéristiques physiques, l'aspect de la femme qui se plaignait serait-il plus beau que celui de la femme qu'elle critiquait? Mes chères sœurs, chacune de vous est unique. Vous êtes différentes les unes des autres à de nombreux égards. Certaines d'entre vous sont mariées. Certaines d'entre vous restent chez elles avec leurs enfants, tandis que d'autres travaillent à l'extérieur. Certaines d'entre vous n'ont plus d'enfants à la maison. Certaines sont mariées, mais n'ont pas d'enfants. Certaines sont divorcées, d'autres sont veuves. Beaucoup d'entre vous sont célibataires. Certaines d'entre vous ont des diplômes universitaires, d'autres non. Certaines ont les moyens d'acheter les derniers vêtements à la mode. D'autres sont heureuses d'avoir une tenue correcte pour le dimanche. La liste de ces différences est presque interminable. Ces différences nous tentent-elles de nous juger les uns les autres? Mère Teresa, religieuse catholique qui a œuvré en Inde parmi les pauvres pendant la plus grande partie de sa vie, a énoncé cette profonde vérité. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Le Sauveur a donné cette exhortation. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous le demande, pouvons-nous nous aimer les uns les autres comme le Seigneur l'a commandé, si nous nous jugeons mutuellement? Et je réponds avec Mère Teresa, non, nous ne le pouvons pas. L'apôtre Jacques a enseigné, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. La religion de cet homme ou de cette femme est vaine. J'ai toujours aimé votre devise de la société de secours. La charité ne périt jamais. Qu'est-ce que la charité ? Le prophète mormon nous enseigne que la charité est l'amour pur du Christ. Dans son message d'adieu aux Lamanites, Moroni a déclaré « Si vous n'avez pas la charité, vous ne pouvez en aucune façon être sauvé dans le royaume de Dieu. » Je considère que la charité, ou l'amour pur du Christ, est l'opposé de la critique et du jugement. En parlant de charité, je ne pense pas actuellement au soulagement des souffrances par le don de nos biens. C'est bien sûr nécessaire et bon. Non, ce soir, je pense à la charité qui se manifeste quand nous sommes tolérants envers autrui, indulgents à l'égard de leurs actions, au genre de charité qui pardonne, qui est patiente. Je pense à la charité qui nous pousse à avoir de l'empathie, à être compatissant et miséricordieux, non seulement lors des maladies, d'afflictions et de détresse, mais également quand les autres montrent des faiblesses ou commettent des fautes. Il y a un grand besoin de la charité qui fait attention aux personnes qui passent inaperçues, qui donne de l'espoir à celles qui sont découragées et qui apporte de l'aide à celles qui sont affligées. La véritable charité est l'amour en action. Partout, on a besoin de charité. On a besoin de la charité qui refuse de trouver de la satisfaction à écouter ou à répéter ces récits de malheurs arrivés aux autres, à moins que cela profite aux malheureux. Horace Mann, éducateur et homme politique américain, a dit un jour « Avoir pitié de la détresse n'est qu'humain, la soulager est divin. » La charité, c'est être patient avec quelqu'un qui nous a déçus. C'est résister à la tendance à s'offenser facilement. C'est accepter les faiblesses et les imperfections. C'est accepter les gens comme ils sont vraiment. C'est voir au-delà de l'apparence physique les qualités qui ne s'estomperont pas avec le temps. C'est résister à l'envie de mettre les autres dans tes catégories. La charité, cet amour pur du Christ, se manifeste quand un groupe de sœurs d'une branche de jeunes adultes fait 300 kilomètres pour assister à l'enterrement de la mère de l'une d'entre elles, qui fait partie de leur société de secours. La charité se manifeste quand des instructrices visiteuses dévouées retournent mois après mois, année après année, chez la même sœur indifférente et assez critique. Elle se voit lorsqu'on se souvient d'une veuve âgée et qu'on l'emmène aux réunions de la paroisse et aux activités de la société de secours. On la ressent quand une sœur assise seule à la société de secours reçoit l'invitation « Viens, viens t'asseoir avec nous ». De centaines de petites façons, vous portez toutes le manteau de la charité. La vie n'est parfaite pour aucun de nous. Au lieu de nous juger et de nous critiquer mutuellement, puissions-nous avoir l'amour du Christ pour nos compagnons de route dans ce voyage de la vie. Puissions-nous prendre conscience que chacune fait de son mieux pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre et puissions-nous faire nous-mêmes de notre mieux pour aider. La charité est définie comme le genre d'amour le plus haut, le plus noble et le plus fort. Il est dit, la charité est l'amour pur du Christ, et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. La charité ne périt jamais. Que cette devise centenaire de la société de secours, cette vérité intemporelle, vous guide dans tout ce que vous faites. Puisse-t-elle imprégner votre âme même et s'exprimer dans toutes vos pensées et vos actions. Je vous exprime mon amour, mes sœurs, et je prie pour que vous receviez les bénédictions des cieux et qu'elles soient toujours vôtres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Father in heaven,
notre Père céleste, nous ressentons de la joie pour l'esprit d'amour que nous avons ressenti ce soir. Nous t'exprimons notre profonde reconnaissance pour l'exemple de la vie de ton Fils. Nous exprimons notre reconnaissance.
For the words of a prophet.
Pour les paroles du prophète.
An inspired Relief Society leaders.
Pour l'inspiration qu'a été la Société de Secours sur la Terre, nous te prions humblement de nous accorder ta grâce, tes bénédictions. Pour te demandons d'aider les sœurs de la Société de Secours partout dans le monde, que nous puissions réellement chercher à être des femmes qui comprennent, des femmes dignes, des femmes guidées par l'Esprit. Tandis que nous recherchons à être des femmes qui fournissent un refuge dans notre foyer où il y aura l'amour, la paix, la force, afin que nous puissions élever une génération qui t'aime et qui souhaite te servir de tout son cœur. Nous te prions pour que nous puissions devenir des femmes de vérité, des femmes sensibles, ayant de la compassion, de l'amour, qui recherchent diligemment à servir les gens qui nous entourent. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance de pouvoir être membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, de pouvoir toujours nous souvenir que nous sommes des gens d'alliance. Nous avons de la reconnaissance, de l'amour, de l'humilité, et nous te disons ces choses humblement au nom de Jésus-Christ. Amen.